We interrupt this program. This is an attack warning. Repeat, this is an attack warning. Attack warning means that an actual attack against this country has been detected and that protective action should be taken. Important instructions will follow in 30 seconds.
Bienvenue hors du troupeau.
La dignité dans la République française du 21e siècle est devenue une revendication politique.
Nous sommes le samedi 6 mai 2034, il est 18h, vous écoutez Radio Saint-Afrique. Ce matin à Montpellier, une jeune femme a été tuée à l'arme sonique par un drone de la patrouille aérienne républicaine. Liv Bekti, c'est son nom, était enceinte et se...
Nous, les humains de cette époque, il ne faut pas égoïstes. Nous sommes très chanceux de les voir, de voir ces lémuriens, ces oiseaux, ces caméléons et demain.
Madagascar dispose d'une richesse écologique inestimable.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir son petit pavillon, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un short tissu de merde, choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo.
Jamais. Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
Ciao, ciao, ciao. Allez, bye bye, je me barre.
Je m'en vais au bout du monde. Bon voyage.
Ciao, troupeau. Chaque semaine, de 18h à 19h sur Radio Saint-Afrique. Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Ciao troupeau !
J-41 avant le premier tour des élections présidentielles et François Fillon est toujours dans la tourmente avec l'affaire des costumes. Car le saviez-vous, selon le JDD, le candidat des Républicains se serait fait offrir pour 48 500 euros de costard depuis 2012. Information essentielle s'il en est, qui n'aurait d'autre but que de lui tailler le sien de costard pour l'expulser manu militari des élections. À quoi bon, me diriez-vous, puisque Alain Juppé a d'ores et déjà déclaré qu'il ne reproposerait pas sa candidature à un parti dont la majorité des encartés consume un flirt extrême droitisant. Et nous voilà au cœur du sujet, mes chères auditrices et auditeurs saint-africains. Car à l'heure où je vous parle, ce lundi 13 mars 2017, un tiers des Français serait prêt à voter sans hésiter pour celle dont on ne prononce pas le nom le 23 avril prochain. Je me suis même laissé compter que de plus en plus d'homos étaient attirés par la fausse chaleur de la flamme du FN. Non mais allô, t'es homo et tu votes FN, c'est comme je disais, je sais pas moi, t'es juif et t'as pas d'étoiles. Bref. Pour tous les lobotomisés à la haute consommation qui ne comprendraient plus les subtilités du langage et qui me taxeraient d'antisémite, je reprends. C'est une absurdité, un non-sens, une hérésie. Alors quoi ? Que nous reste-t-il ? Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas récupéré ses 500 signatures. Benoît Hamon recule déjà sur sa proposition de revenu universel. Quant à Emmanuel Macron, il se fait faire le portrait par des antisémites, des vrais ceux-là. Non mais je veux dire, où elle est la gauche ? L'authentique, la militante, la citoyenne, la responsable. Au fond d'être ok à se bourrer la gueule en chantant qu'elle est votée, cela ne sert plus à rien et en allant vomir que la révolution se fera dans la rue. Dans des collectifs, néo-ruraux mais pas vraiment ruraux, bienveillants mais à chercher des poux à ses voisins, partisans du local mais tournant en rond dans un bocal rempli de weed et de coq. Allez, je suis grinçant, je suis mordant, mais que voulez-vous ? En ayant quitté le troupeau sans en être devenu un loup encore, je suis un chien. Wouh ! Eh oui, le cynisme est une philosophie appliquée. Une petite merveille de résistance, un outil rhétorique. Et j'espère qu'il existe encore, à travers les rougiers et les cosses, les vallées et les collines, les villages et les villes, des esprits assoiffés de bon sens, et dont la complexité du monde et la bêtise omniprésente n'ont point ravagé les compétences et la vitalité. Laissez-moi vous raconter une histoire. À partir de janvier 1942, par décision du préfet de Toulouse, La Conne, dans le département voisin du Tarn, autant dire à deux pas, de 20 centres d'assignation à résidence. Je cite cette incomparable littérature administrative vichysoise, des individus dont les agissements, l'attitude, la nationalité ou la confession constituent des facteurs de mécontentement ou des malaises dans la population. Bref, jusqu'en 1944, 650 juifs, qui n'avaient sûrement pas demandé une cure thermale sous le roc de Montalet, furent assignés à Lacon. Vous me direz, ils étaient toujours mieux au vert que dans l'enfer sombre et noir d'Auschwitz. Le problème, c'est que tout le monde ne pense pas comme vous, mes chères auditrices et auditeurs saint-africains. Et le 26 août 1942, profitant de l'aubaine d'avoir à portée de main, et loin des regards curieux, un troupeau entier de brebis galeuses, et évidemment, je ne parle pas des Laconaises, un groupe mobile de réserve, composé de bons vieux français d'extrême droite, y effectue une rafle, bien moins post-médiatisée certes que celle du Veldiv, mais une rafle tout de même. Alors voilà qu'à Lacon, dans le département voisin du Tarn, autant dire à deux pas, une onde de choc se propage parmi la population des environs et sera le déclencheur d'une aide aux Juifs, y compris par les gendarmes locaux, oui. Serait-ce à dire que rosser les cognes n'est pas toujours d'utilité publique? Je vous laisse seul juge, auditrice, auditeur, et me contenterai de rendre hommage à la mémoire de certains justes parmi les nations. Albertine, née Albert, distributrice de journaux, et Raoul Bonafou, forgeron. Fernande, née Riols, et Raoul Durand, propriétaire d'un magasin de confiserie, résistant. Louise Fourgassier, née Escande, agricultrice. Reine, née Albert et Henri Lefebvre, chef de gare et résistant. Marcel, née Médal, et Roger Maraval, grossiste en vin et liqueur. Marie-Louise Menou, née Bonafon, gérante de café. Julie, née Nicolo et Louis Plégade, agriculteur. Paul Serre, restaurateur. Enfin, Joseph Vernier, fonctionnaire. C'est marrant, moi qui pensais que tous les agris étaient des cutéreux, les chefs de gare et les fonctionnaires des bons à rien, les commerçants des profiteurs, les journalistes des vendus et les artisans des artistes inutiles, me voilà gros gens comme devant. Aurais-je eu des préjugés, des a priori, de ces affreuses idées reçues faites de soupçons, de paranoïa et de conspiration? Cuirassé Potemkin à prisonnière du désert. Je répète, cuirassé Potemkin à prisonnière du désert. Résistance d'hier et résistance d'aujourd'hui. Comment faire le lien? Que je sois brebis, chien ou loup, comment m'inscrire dans le présent? Si la révolution se fait dans la rue, elle se fait aussi dans les urnes. Dans les urnes et dans la tête. Car vous ne m'ôterez pas de l'esprit qu'une caboche bien remplie vaut bien mieux qu'une ignorance crasse. D'ailleurs, savez-vous, auditrice, auditeur de Radio Saint-Taf, d'où vient le terme « idiot » ? Ouais, je sais. Il paraît que j'étais prof de français dans une vie antérieure. J'en ai gardé le goût des lettres, le goût des mots et des pensées qu'ils véhiculent. Dans la Grèce antique, berceau de la démocratie et de la philosophie, « idiotesse » désignait ces hommes dont on se raillait et qui refusaient de participer à la vie politique. À bon entendeur, salut, vive la poésie et ciao troupeau.
Ciao troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique.
Finalement, ce réchauffement de planète, c'est pas si inquiétant. C'est même plutôt agréable.
C'est ce que doit se dire une tarte oubliée dans un four. Juste avant de cramer.
¡Venga!
Salut, salut et bienvenue donc dans Ciao Troupeau, en compagnie cette semaine d'Aurélie et de Vincent. Bonsoir.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonsoir.
Alors, nous vous avons invité dans cette émission de Ciao Troupeau pour que vous nous parliez un peu d'une prochaine expédition que vous alliez effectuer tous les deux à Madagascar du 21 juillet au 1er septembre, donc d'une durée de 6 semaines, avec l'ONG Nature Évolution, mais on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Alors, je ne sais pas, l'honneur aux dames, pas forcément.
Bon, bah, d'accord, forcément. Bon, bah, moi, c'est Aurélie et je suis dessinatrice. Et donc on se demande un petit peu le lien avec une expédition au départ.
Quel est le lien avec une expédition?
Ah, eh bien, en fait, l'ONG Nature Évolution, dont on va parler là, qui organise l'expédition, je suis déjà partie deux fois avec elle dans d'autres endroits en tant que dessinatrice d'expédition, comme au 19e,
okay. Ouais, tout
un
à
petit
fait.
Peu. Mais ça a encore son utilité aujourd'hui. Voilà.
Ok. Et Vincent?
Et bah moi du coup, bah vous me connaissez à Radio Saint-Taf, l'ornithologue de service. Donc je pars à Madagascar sur l'expédition pour m'occuper avec Anne-Sophie Lafuite, doctorante au CNRS de Toulouse, du volet ornitho. Et on sera aussi aidé par Eric Marcel Temba de l'université de Antananarivo.
D'accord.
Donc on part à 3 ornithos au minimum.
Ok.
Mais vous êtes vachement nombreux sur cette expédition, non? On peut peut-être présenter rapidement le groupe, de quoi il sera constitué?
Ouais. Oui, alors...
Même s'il n'est pas tout à fait constitué.
Voilà, il n'est pas encore tout à fait constitué parce que c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de participants. Ils ne sont pas tous établis, mais il va y avoir un volet scientifique important et ça va être le poste le plus important. Il va y avoir une partie retour image, c'est-à-dire radio, dessin dont je fais partie... peut-être documentaire, télé, mais c'est pas encore sûr. Et puis toute une partie logistique et la photo aussi, pardon. C'est vrai. Et la photo.
Ok.
Il y a quand même les affûts dans la canopée qui sont prévus. J'oublie pas ça.
Donc l'idée, c'est de partir à Madagascar, c'est ça?
Ah oui.
Voilà. Vous nous présentez un peu le projet, du coup, je sais pas.
Bah du coup, Aurélie parlait donc du volet scientifique. Donc on va avoir une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir traiter différentes thématiques. Archéopaléontologie, botanique avec les fougères, crustacés, insectes, mammifères, primato. Et également oiseaux. Entomo, ouais. Donc les insectes.
Entomo ?
Entomologie, l'étude des insectes. Ouais.
Pardon. C'est une expédition qui a été mise en place aussi par une équipe des étudiants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est ça ?
Oui, voilà. Ouais. En fait, l'idée de cette expédition, au départ, vient d'un étudiant du muséum qui s'appelle Gaëtan Deltour, qui a été éco-volontaire pour l'ONG Nature Évolution, donc qui est déjà parti dans le massif du Macaï,
d'accord.
Donc, là où nous partons.
Ok, on y reviendra un petit
peu. Donc il est parti en tant qu'éco-volontaire scientifique là-bas. Et depuis, il a très envie d'y retourner et il a monté un petit peu la première grosse expédition organisée par des étudiants avec le support logistique de Nature Évolution.
D'accord, ok. Est-ce qu'on peut parler un peu des buts que se donne cette expédition?
Oui, oui. Alors, il faut savoir que ce massif, il est situé dans la partie centre-ouest de Mada. Donc, il fait 150 km de long sur 50 de large. Donc, ce qui fait en fait 7500 km.
Donc, le massif du Macaï, hein, c'est
massif
ça
du Macaï, voilà. Ouais. Complètement en autarcie. Hein, le massif en lui-même n'est pas habité. Il n'existe que des petits villages de brousse autour, en fait, sur le pourtour du massif. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de village. Donc là, le but, c'est de rallier des zones qui n'ont pas du tout été encore prospectées. Mm-hmm. En 2010, il y a déjà eu une première expédition où ils ont prospecté certains secteurs bien précis.
Ouais, au niveau de la faune et de la flore,
c'était encore beaucoup plus vaste comme expédition, c'était 60 scientifiques, donc c'était vraiment le gros rouleau compresseur, on va dire. Et donc ça leur a permis de faire un premier état des lieux. Quoi.
Okay.
Et là, cette année, le but, c'est de renforcer les inventaires et surtout de rallier des zones qui n'ont pas du tout été prospectées ou potentiellement on peut avoir des très très belles surprises.
Il peut y avoir des découvertes.
Oui,
d'espèces.
Ouais, ouais. Ouais, c'est possible.
Okay. Il y en a déjà eu 5 sur la première expédition.
Ok. Déjà. Ok. Je savais pas ça.
Et du coup, tu parles d'un massif qui n'est pas habité. Donc, les zones d'habitation se situent à l'extérieur du massif, tout autour, sur le pourtour. Quels sont les rapports avec la population que vous entretenez sur place?
Bah, nous, on n'y est jamais allé, mais on va dire que l'ONG fait un gros travail de terrain à des personnes sur place à l'année. Mais c'est un travail de longue haleine parce que il faut tenir compte de la culture, des croyances, etc. Et on peut pas se balader comme ça n'importe comment en toute impunité. Donc il y a un gros travail en amont. On peut pas débarquer comme ça sans connaître le lieu, le pays, et c'est pas la volonté.
Donc l'ONG est impliquée sur place.
Depuis plusieurs années. Ouais.
Il y a toujours des membres de l'ONG qui y restent et qui travaillent sur place.
Il y a des membres de l'ONG qui sont là sur place et il y a un travail toute l'année, depuis plusieurs années.
Et d'ailleurs, pendant l'expédition, il va y avoir aussi des malgaches qui vont être avec vous pour justement vous guider.
Des chercheurs et des locaux, c'est-à-dire des villages environnants.
Ok, ça marche. Et pour être plus vigilant justement vis-à-vis de cet aspect un petit peu d'être un petit peu vigilant, de pas arriver à 30 blancs dans un pays étranger, quoi. Comment on s'y prend en fait concrètement, quoi. Enfin, je sais pas, vous allez arriver direct, vous allez en forêt ou comment ça se passe en vrai?
Voilà, enfin, on va. Vincent lui part un petit peu en avance, mais vous en parlera tout à l'heure. Moi pour le coup, on va partir direct dans le massif.
Ouais.
Voilà. Après, on peut faire ça parce qu'il y a tout ce travail qui existe en amont, quoi. C'est pour ça que c'est possible de cette façon-là. Sinon, ce serait beaucoup plus compliqué et voilà.
Et du coup, toi, ta démarche, Vincent, elle est peut-être un peu différente de nous disait Aurélie ou...
Disons que c'est plutôt que je profite de l'opportunité de participer à ces 6 semaines d'expédition pour monter en parallèle un projet plus global, toujours de sciences participatives et de bénévolat, où du coup je vais aller dans différentes assos, différentes réserves pour faire des compléments d'inventaire naturaliste, particulièrement ornitho, et rencontrer un peu différents intervenants locaux, différentes assos, ONG.
Okay. Voilà. Mais du coup, on peut dire les dates aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Ça va se passer quand, du coup, cet expé?
On l'a dit au début, c'est 21... on peut le redire, du coup, c'est 21 juillet, 1er septembre 2017. Donc pour l'expédition purement scientifique, donc portée par Nature Evolution et le MNHN de Paris. Et ensuite, moi, normalement, je devrais partir d'ici à peu près un mois.
Ok, ça marche.
Voilà.
Sans pause, peut-être on peut essayer de parler un petit peu vraiment du travail qui va être fait sur place, vraiment les particularités peut-être du système, je sais pas comment on dit avec les mots précis et tout ça, mais...
Alors, pas d'un point de vue écologique, on va dire, pourquoi Mada? On pourrait se poser la question quand même, pourquoi Madagascar? Parce que Madagascar, en fait, c'est la 5e plus grande île de la planète, et il se trouve que c'est l'endroit où il y a le plus fort taux d'endémisme, en fait, au monde.
Locales.
Qu'on ne retrouve que là.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'on ne retrouve strictement que là, et qui génétiquement sont vraiment... originaire de cet endroit-là. Okay. Et du coup, par exemple, pour les oiseaux, sur 292 espèces nicheuses avérées à Madagascar, il y en a quand même 150 qui sont strictement endémiques.
On retrouve nulle part ailleurs.
Pour les oiseaux, c'est un cas totalement exceptionnel parce que, par exemple, pour le Kenya, on est à 1080 espèces d'oiseaux pour le pays, donc région tropicale également, mais on n'a que 2 espèces endémiques. Alors que là, Madagascar, le nombre d'espèces est bien moindre, par contre le taux d'endémisme est très 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 important. Donc c'est vraiment la particularité de Mada, quoi, c'est son taux d'endémisme.
Et ça se retrouve ailleurs que pour les oiseaux, j'imagine.
Ah oui,
pour les plantes, c'est à peu
près la même. Les plantes, c'est 10 000 espèces strictement endémiques de Madagascar, et là on ne parle que de plantes vascularisées, donc ça veut dire que ça ne prend pas en compte ce qui est fougère et mousse.
Hépatique,
ouais. Donc c'est phénoménal, c'est vraiment... Et le problème, c'est que sur Madagascar, on estime en moyenne à 250 000 hectares de forêts tropicales qui partent en fumée par an. Parce que le problème, c'est les feux de brousse principalement. Et donc le but de différentes ONG comme Nature Evolution, c'est d'essayer d'enrayer un peu cette perte de biodiversité qui est absolument catastrophique, quoi.
Ok.
Qui est dû essentiellement à...
à des pratiques de culture sur brûlis, en fait. Ouais. Il faut savoir que malheureusement, en plus, je ne pensais pas d'ailleurs, mais il se trouve que les sols qui se trouvent sous ces forêts-là sont principalement des forêts en fait tropicales sèches, qui sont des habitats qui sont malmenés partout sur la planète d'ailleurs, qui sont de plus en plus rares. Et quand on brûle, en fait, le couvert forestier qu'il y avait sur ces sols, les sols ensuite sont très pauvres, en fait.
Okay.
Ils sont très très pauvres, il y a très peu de matière organique, c'est pas du tout un sol riche, et il s'appauvrit très très rapidement dans les quelques années qui suivent, en fait, son utilisation. Donc après, en fait, le capital écologique naturel du sol, il est perdu, quoi.
Ouais, tout à
donc
fait.
Le but, c'est vraiment de, d'aller dans le sens d'un maintien du couvert végétal tout en, en développant, on va dire, le niveau de vie locale. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais enfin, j'aime pas trop. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment du développement avec les populations.
Oui,
on travaille tout le temps avec eux, quoi.
Oui,
il y a pas de, c'est pas les Occidentaux qui viennent et qui font, on fait comme ci, comme ça.
Alors, il y a aussi une deuxième chose.
Ouais.
C'est qu'effectivement, il y a un gros travail éducation à l'environnement, sensibilisation, et essayer de trouver ensemble des nouvelles solutions, justement, pour vivre dans ce type de milieu. En le protégeant un peu plus. Et il y a un nouveau risque pour le massif aussi qui est en train de se développer et sur lequel travaille beaucoup l'ONG Nature Évolution, c'est tout ce qui est écotourisme. Donc je mets des gros guillemets parce que justement c'est l'ONG essaie de faire tampon et de former les guides et de former les structures qui veulent faire de l'écotourisme parce que des fois ils arrivent avec plein de belles idées mais justement ils ont pas le passif et ils font pas attention et ils font faire des grands feux parce que ça fait chouette pour les touristes et et sauf que ils font pas des petits feux de camp des énormes trucs et ça aussi, c'est un problème.
Okay. Alors Vincent nous a parlé un peu de son travail dans l'EXPE. Et le tien consiste en quoi, du coup, Aurélie ?
Alors, je fais plusieurs choses. C'est-à-dire que je fais un reportage dessiné. C'est-à-dire je dessine sur le vif tout ce qui se passe pendant l'expédition. Pour le retour image, pour varier les supports, ça va avec la photo, la vidéo, etc. Okay. Et je suis à disposition des scientifiques parce que j'ai une formation naturaliste et je peux réaliser des planches directement sur place, des dessins d'observation de comportement et tout ça. Donc l'intérêt, c'est aussi que je travaille un peu avec toutes les équipes.
Moi,
je vais
aller un petit peu partout. Tu te trimbales avec ta petite mallette
J'ai un petit sac à dos. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir...
peinture,
voilà.
Tout suite. Oui.
Mais la base, c'est-à-dire, okay. comme on parlait du 19e, en fait, ça n'a pas trop bougé. C'est-à-dire mine de plomb, aquarelle et papier, quoi.
D'accord.
Voilà, ça je suis marche. Léger.
Et toi, Vincent, tes instruments, c'est plutôt les jumelles, du coup.
Moi, c'est jumelles, matos photo, longue vue.
Ah, moi aussi, j'ai une lunette et des jumelles.
Oui, ça va.
Ça va, oui, on n'a pas besoin.
On pourrait faire des concours de bah ouais. celui qui a,
on va
qui a la meilleure vue.
On va peser nos sacs.
Quoi.
Ça marche. Bon, peut-être on peut parler vite fait des financements. Comment ça se finance, en fait, une expé comme ça? Parce que, du coup, on imagine que c'est, en fait, une logistique de ouf.
Ah oui, oui.
Donc il y a beaucoup de partenaires et ça c'est le gros travail des étudiants qui ont monté le projet là, parce que c'est vraiment eux qui sont à l'initiative du projet. L'ONG, elle est partenaire logistique, on va dire, voilà, sur le terrain. Alors du coup, eux, ils ont levé des fonds essentiellement auprès de bourses étudiantes scientifiques.
Okay.
Donc ça, c'est une base. Après, il y a eu des financements participatifs sur différentes plateformes. Et après, il y a les partenaires matériels, logistiques, partenaires, presse et tout ça. Voilà. Donc, mais sinon, voilà, c'est essentiellement des bourses scientifiques et étudiantes.
Ok, ça marche. Et du coup, il me semble que Vincent, toi, t'avais un,
moi, j'ai un petit peu particulier, justement.
Comment
c'est
ça
que
se fait,
moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas donc financé pour le moment, et je cherche justement des mécènes, des gens qui seraient prêts à m'aider dans mon projet. Voilà. Donc, j'ai une plateforme de crowdfunding qui existe sur Hello Asso. Bon, je ne vais pas dans l'adresse parce que c'est très compliqué, mais vous pouvez me contacter si jamais vous voulez en savoir plus.
Ou vous appelez la radio aussi.
Oui, voilà, la radio.
Vous pouvez mettre sur la page Facebook de la radio aussi. Peut-être.
Ouais, c'est vrai que ce serait chouette.
Et alors, comment on fait pour avoir un peu plus d'infos sur l'expé qui se prépare? Est-ce qu'il y a une page, un truc, un blog, un site?
Il y a plusieurs pages. Donc, il y a une page qui s'appelle Les Aventuriers du Muséum. Donc, c'est la page des étudiants. Sinon, on pourra le suivre sur le site de Nature Évolution. Il y aura une page Facebook, il va y avoir vraiment plusieurs supports. On pourra donner le mettre sur la page aussi. Mais voilà, il suffit d'aller sur la page Nature Évolution, Macaï, Aventurier du Muséum.
Oui.
Et on pourra suivre. Normalement, il est prévu qu'il y ait qu'il y ait un suivi même pendant l'expédition et des infos.
On mettra des liens aussi sur la page de l'émission.
Évidemment.
Sur le site de la radio. Voilà.
Ouais, évidemment.
D'accord.
Et ben, on n'a plus qu'à vous remercier. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je sais pas, des détails particuliers.
Ben non, merci à vous. Et puis, voilà, de suivre l'expédition. Et puis, voilà, on fera peut-être un petit bilan de l'expérience au retour. Oui.
J'allais vous inviter au retour.
D'ailleurs, moi, je reviendrai avec normalement un reportage radiophonique
voilà.
Que je diffuserai sur Radio Saint-Afrique. Évidemment.
Ouais, moi, je peux décrire mes dessins, mais ça ne fera pas le même.
On peut essayer, on peut les mettre dans la vitrine aussi.
Ça peut être un concept.
Ça peut être sympa. Ouais.
Bon, allez, bonne route, bon voyage et bonjour aux oiseaux.
Merci
et
beaucoup.
Autres et à fougères.
Merci.
Allez, on va continuer cette émission de Ciao Troupeau. Et en fait, samedi prochain, ce sera le samedi 19 mars, à Paris se tiendra la Marche de la Dignité, héritière des marches de l'égalité et contre le racisme des années 80. Et donc, on voulait vous faire un petit aperçu de ce qui s'était passé l'année dernière et de l'appel pour cette année.
C'est une marche pour la dignité.
Allez, on va marcher, on va tout déchirer pour notre dignité.
Le 19 mars, il faut qu'il y ait des lions qui partent de toute la France en direction de Nation 14h. Je vous rappelle, en 2005, il y avait cette idée que lorsque Zied et Bouna sont morts, et on comprend d'ailleurs pourquoi Zied et Bouna ont couru, il suffit de regarder ce qui s'est passé pour Théo. Eh bien, il y avait cette idée dans les quartiers populaires que parce que ça brûlait ici, il fallait que ça brûle là, et parce que ça brûle là, il fallait que ça brûle ici, il fallait que ça bouge ici. Et très concrètement, c'est la même chose qu'il faut décliner concernant l'écart contre le racisme, les racismes d'État. C'est le premier mot d'ordre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça part des familles des victimes des violences policières, c'est-à-dire ça part des premiers et des premières concernés par les violences en tant que telles, qui sont à l'initiative de cet appel du 19 mars. Il y a évidemment d'autres mots d'ordre. Les autres mots d'ordre, c'est la question des réfugiés. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans un pays qui condamne non seulement, évidemment, ceux qui se solidarisent des réfugiés, on l'a vu dans la vallée de la Roya et ailleurs, mais très honnêtement, qui font la chasse actuellement aux réfugiés, mais où, malgré les promesses qui ont été faites par ce gouvernement, des réfugiés qui se retrouvent renvoyés dans le pays par lequel ils sont passés avant d'arriver en France. Le troisième axe, il est fondamental évidemment, c'est celui des libertés démocratiques, c'est celui contre l'état d'urgence, c'est-à-dire, en réalité, contre un état liberticide qui empêche tout mouvement de contestation à l'échelle de ce pays-là. Et enfin, la question sociale nous est chère dans cette affaire-là, et très concrètement, on ne peut pas avoir d'égalité de démocratie s'il n'y a pas d'égalité sociale par ailleurs. C'est vrai dans les quartiers populaires, c'est vrai aussi dans la ruralité. Et c'est au détour de tous ces mots d'ordre. Je le dis parce que tout le monde depuis des mois a aux tripes la nécessité de faire de la convergence. On est tous à souffrir individuellement, voire collectivement. Mais l'idée fondamentalement, c'est de pouvoir politiser cette souffrance. Et politiser cette souffrance, c'est de faire converger nos souffrances. Converger nos orientations politiques. Eh bien, ça aussi, c'est malgré tout, à mon sens, une bonne nouvelle. C'est que ça vient à l'initiative des familles victimes des violences policières qui appellent à la convergence des luttes sans pour autant noyer les agendas les uns dans les autres. C'est-à-dire concrètement, il faut le dire très nettement, que la question des quartiers populaires est, pour nommer les choses comme elles sont, les Arabes, les Noirs, les Roms, les musulmans, qui sont discriminés pour ce qu'ils sont et pas simplement pour ce qu'ils font, et pour autant on ne fera pas de barrière entre un eux et un nous de ce point de vue-là, qui sont discriminés racialement, avec évidemment toute la notion de construction raciale, parce que je sais qu'on n'est pas tous au même fait là-dessus. Personne ne parle de race biologique, surtout pas. Mais l'idée de dire que les flics sont capables de contrôler au faciès plus certaines catégories de la population que d'autres, tu l'appelles comme tu veux, si race ça te fait mal à la tête, eh bien, dis noir et arabe, si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais il y a cette idée de construction sociale qui fait que dans ce pays, il y a des individus qui sont dans un registre de sous-citoyenneté.
Plus de justice et éradiquons les inégalités.
Je suis là pour déclarer mon indépendance par rapport à un État qui laisse faire le racisme et les crimes policiers.
Pour marcher contre la violence policière, contre le racisme, contre la précarisation, l'inégalité et l'exploitation.
Il faut clamer notre dignité. On l'a toujours eue, elle est là et on la clame aujourd'hui. C'est une manifestation faite pour les premiers concernés, par les premiers concernés.
Je dénonçais le racisme d'État et de la société.
Pas de gens de pivoiner, pas de justice, pas de paix.
pas de justice, pas de paix, brutalité.
On ne peut pas se glorifier historiquement de la commune comme un héritage du mouvement ouvrier. On ne peut pas se glorifier historiquement de mai 1968 comme un héritage du mouvement ouvrier avec ses barricades et ses flammes. Si on ne se réfère pas, si on n'intègre pas dans son logiciel de référence politique les mouvements de protestation et de révolte dans les quartiers populaires, parce qu'on n'accepte pas la horla, on n'accepte pas qu'on nous la fasse à l'envers, l'humiliation, évidemment l'humiliation qui continue, y compris en Aulnay-sous-Bois, il suffit d'écouter les jeunes et les moins jeunes où les flics passent actuellement après ce qui s'est passé pour Théodore et disent aux jeunes, est-ce que tu veux que je t'encule avec ma baïonnette ? Compte jusqu'à 10 avant que je te mette une claque. Et quand le moment m'a compté jusqu'à 10, compte jusqu'à 15 avant que je t'éclate la tête contre le mur. Et donc fondamentalement, on a une police qui est dans une dynamique évidemment de racisme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors je ne veux pas faire le débat ici. Est-ce qu'on a affaire à des pratiques racistes d'une police ou est-ce qu'on a affaire à des pratiques d'une police raciste ? Chacun repartira avec ce qu'il voudra. On n'est pas tous d'accord sur le 19 entre un État raciste et les pratiques racistes d'un État. Mais fondamentalement, ce que l'on doit comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous, contrairement à d'autres groupes, notamment la déclinaison socialiste de cette mairie ici à Lyon et ailleurs. Je ne veux pas être ami et aimé de la police et des policiers. Ce n'est pas un objectif dans la vie. Alhamdoulilah, je suis bien équilibré émotionnellement. J'ai mon père et ma mère qui m'aiment, et beaucoup plus que ça, une fratrie, t'as pas idée. Il ne s'agit pas de jouer au foot demain avec les policiers. Ce n'est pas ça le but. Le problème, il n'est pas de l'ordre de la relation sociale ou des relations sociales. Il est de l'ordre du rapport social, du rapport de domination, du rapport d'exploitation, du rapport de violence, du rapport entre ceux qui sont au-dessus et ceux et celles que l'on a décrétés étant en dessous. Et quand je dis en dessous, ça veut dire beaucoup de choses quand on vit dans les quartiers populaires. Le troisième point, quand je dis se solidariser avec les quartiers populaires qui bougent, et y compris quand il y a des flammes, y compris quand il y a des abris de bus pétés, y compris quand il y a des bus calcinés, et y compris tu peux t'émouvoir demain s'il y a une bibliothèque qui brûle, d'accord, mais après ton émotion, comprendre qu'il y a un système scolaire qui met 150 000 jeunes à la rue régulièrement dans ce pays-là où les inégalités scolaires sont les plus criantes partout dans les pays de l'OCDE, et très concrètement, l'école n'est pas ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle aurait dû être fondamentalement. Donc cette amertume, ce dégoût, ça se traduit par cette colère. Et fondamentalement, cette colère, c'est une forme de mobilisation politique, il faut l'entendre, pas sous forme de tract, sous forme d'affiche, mais c'est une forme de visibilité. Et cette histoire de visibilité, elle est fondamentale, parce que le reste de l'année, tous les politiques, y compris les médias, cherchent dans leur globalité à invisibiliser celles et ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, racial, ethnique, tu prends les termes que tu veux, mais t'as très bien compris ce que ça peut signifier.
Ça fait 30 ans, j'étais déjà à la première marche. J'avais dit que je marcherais plus, mais il faut le refaire. J'avais 20 ans, aujourd'hui je suis grand-mère et je remets ça. Et j'avais dit que je ne marcherai plus. Pas de justice, pas de paix. Tant qu'on est dans la lutte, c'est qu'on y croit encore. Il reste l'espoir. Malheureusement, il y a 30 ans, c'était que l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, regardez autour de vous.
Il y a tout le monde.
Voilà. Moi, en fait, je suis la petite sœur d'un jeune homme qui a été tué en 1981. Il s'appelle Zahir Boudjelal. Et après 30 ans, on se retrouve encore à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41.
Voilà. On n'est pas tout seul. Hein. Regardez. Hein. Et nous, on n'arrêtera pas, de toute façon.
D'accord. Tu n'es pas prêt à baisser les bras, toi ?
Ah non. Je pense à mes frères, moi. Mon frère, il est décédé avec la police. Et Abdoulaye...
Violence policière ?
Violence policière, ouais. Qu'ils essayent de cacher. Mais nous, on est là pour les représenter. C'était des petits jeunes de 26 ans. Ils étaient gentils. Et ils les ont coursés sur Abdoulaye. Ils ont tiré 10 balles dans le corps.
Mais des balles, de vraies balles ?
Des vraies balles, là, il n'y a pas longtemps. L'année dernière, en décembre.
Avec ou sans foulard, maman, toutes égales.
Ça fait combien de temps que vous militez, vous, contre le racisme et la xénophobie ?
Au moins 70 ans, puisque j'en ai 80 et quelques.
Et ils font toujours pour nous. Et il est là le problème. Ils nous demandent jamais rien. Mais ils pensent qu'ils font les bonnes choses pour nous.
Non, déjà, il faudrait remettre de la démocratie dans cette France, pays des droits de l'homme, qui est soi-disant le pays des Lumières. Et j'aimerais bien savoir quel est le connard qui a coupé le courant.
Nous sommes tous noirs, arabes. Braves musulmans, nous sommes tous noirs, arabes, braves musulmans.
Un signe éloquent, c'est que la dernière loi votée par ce gouvernement, parce que maintenant c'est fini, la session parlementaire est terminée, ça a été comme l'a dit Ramata, d'aligner les flics, alors qu'ils avaient déjà le permis de tuer, sans se gêner évidemment, mais d'aligner le permis de tuer des flics sur celui des gendarmes, Je rappelle que les gendarmes, c'est l'armée. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui, sans aucun doute, relève de l'ennemi intérieur. C'est ça qu'il faut intégrer dans cette affaire-là. Et qu'on n'en a pas fini avec ces grilles de lecture qui permettent de valider les guerres à l'extérieur pour mener aussi, dans le même temps, avec le même registre, le même vocabulaire, les grilles à l'intérieur en direction d'une partie de la population. Et enfin, le dernier point, et je terminerai là-dessus. Les médias mettent en avant certains morts, certaines victimes plus que d'autres. Notre stratégie à nous, c'est de dire oui, ils font partie de notre combat. Adama Traoré, il est des nôtres comme dit Assa Traoré, c'est notre frère à tous. Lamine Diagne, c'est notre frère à tous. Khalil Ziri, c'est ton père ou ton grand-père. Et fondamentalement, la famille s'est agrandie, cette famille de solidarité. Mais nous dirons dans le même temps que Adama Traoré, c'est le 8e mort de l'année 2016. Je le dis parce que ça se sait pas. Ça veut dire qu'il y en a eu 7 précédents, qu'il y en a eu d'autres derrière, notamment, y compris des victimes qui ont été fauchées à Calais et ailleurs. Alors ça nous oblige à quelque chose dans cette affaire-là. Pas simplement à suivre l'agenda médiatique. Pas simplement à nous faire croire que l'affaire Théon, c'est dégueulasse parce que c'était un mec qui était blanc malgré sa négritude. C'est-à-dire un mec qui n'avait pas de casier judiciaire, sauf jusqu'à quelques jours où ils ont réussi quand même à sortir quelques dossiers. Eh bien, nous, on dit très clairement, et c'est vrai pour l'ensemble de celles et ceux qu'on défend, quelle que soit la situation, y compris le parcours de délinquants, parce qu'évidemment, il faut du système D quand on vit dans les quartiers populaires, quand on est toute cette société-là, ça nous oblige à la solidarité pleine et entière à l'égard de toutes les victimes et des familles des violences policières, aussi bien dans la métropole que dans les colonies, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les dom-toms, comme ils disent, ces fameux métrages de littoral qui soi-disant seraient une chance pour la France, ce sont rien d'autre qu'un servage colonial, qu'un ordonnement colonial qui est fait dans ces zones-là, et il faut nous solidariser de tout cela. Et enfin, je le dis, ça me semble extrêmement important dans cette affaire-là, c'est que le 19 mars, il y aura une marche. Mais après la marche, il faut qu'il y ait un après. Ça veut dire qu'il faut qu'ici, il puisse y avoir, y compris, des cadres collectifs unitaires qui puissent converger sur un ensemble de luttes. L'idée, c'est de se donner rendez-vous. Cette convergence qui rentre par là où on ne l'attendait pas, la question des violences policières et des quartiers populaires, ça nous oblige à nous solidariser aussi de Bagui, par exemple, qui est en prison, qui n'a rien à y faire. À nous solidariser aussi, bien sûr, de l'affaire de Théodore, comme je disais il y a un instant, alors que les quatre flics en question sont toujours en train de se balader. À nous solidariser des jeunes et des moins jeunes qui actuellement croupissent en prison, compris du 6 mois ferme, parce qu'ils ont soi-disant fait le délit d'attendre les flics à un endroit. Alors que fondamentalement, la répression, elle est d'une extrême violence dans les quartiers populaires et d'un laxisme sans nom. Parce que c'est justice et police qu'il faut dénoncer dans cette affaire-là lorsqu'on est noir, arabe, rom et musulman. Voilà pourquoi je finirai là-dessus. Le rendez-vous ultime, c'est celui du 19 mars, 14h Nation.
On va tout déchirer pour notre dignité.
On est à Barbès et c'est une marche pour la dignité.
Allez, on va marcher.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Pour notre dignité.
Bonnet sur les yeux à la barre des villes. J'aime traîner dans les lieux de mon Havreville. Je suis de l'époque des trôneurs dans le bar de mille. Et des mines, des confites à coups de baramine. Oh. Que de drames de hurle. Fais de nous de bons dramaturges. Quelques grammes de pur. Tu t'endors dans les bras de ta nature. Oh. J'en perds mon latin, perquise au matin. Tu perds le terrain, faut en descendre un. Je cause comme un bouquin, je suis pas écrivain. Mais je décris la vie urbaine en alexandrin. Cruciverbiste, je craque le vernis. Tellement de choses à dire que je déborde la ligne. La plume est magique, feta et magie. Brassens, brel et ferraille, c'est l'album de la ligue. On a nos propres préférences. Les tiennes, on se les octroie. Ta philosophe de France. Moi, mon Socrate habite le 9-3. Mon psychiatre le plan d'Ao. Depuis le son des bandits, boy. Ici je n'ai plus le journal. Sauf 3W Bondi, blog. Rentre dans la war room, des gaines de gourou. J'ai le bon discours, je suis comme un tout bibalourde. La valeur d'un lourd, une perle dans la palourde. Nos quartiers bressons dans la pâleur du jour. J'introduis l'art mineur sur le marché de l'art. Quand le peur a fait le bruit d'une machine à dollars. On est tous des casseurs, je lance des pavés de marbre. Black, bloc, tulipe, noir. Infrabasse dans la berline. Quand la rue transporte les litres. Une grenade dans la playlist. Pro de la prose, on est l'élite. Musique outrancière, bouffard de papier. Prêcheur à capuche. Ce soir je suis seul en scène. J'rappe ou j'ai papier. J'prêche mes convaincus.
convaincu. Ouais, je m'ai convaincu. Ouais, je m'ai convaincu. Ça vient pour s'ambiancer. C'est nous les seuls petits qui nous font danser. On le canoncier. On le canoncier. Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus. Pasteur des prévenus. Ce soir, je suis seul en scène. Je rappe ou j'ai papier. Je prêche, mais convaincu. Le rap, un sport d'esclaves. Qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Un jour l'hexagone se souviendra qu'on est la partie noble. Un rappeur qui meurt, une biblio qui brûle. Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture. Peu taciturne et la langue du bitume. Les tatouages à l'encre racontent le vécu. Pas d'œuvre rappée, c'est pas du rappelé. Un poème qui sera, c'est dur à s'en rappeler. Je suis pas républicain, je suis démocrate. Jusqu'à ce qu'elle m'aime la France, je vais la démographier. Mon brouillon, c'est ton prix concours. Au FNJ, je donne des cours de langue. On fait dans le son et dans les discours. Comme le nègre de François Hollande. Ça te rend heureux d'entendre mes chansons tristes. On vit la torture sous anesthésie. Ça me rendra pas plus politique. Si je kick sur les beats de Pierre Sarkozy, goûte au préau. On vit en vase clos. Les autres sont des tricycles au salon de l'auto. Je suis donné pour mort depuis l'époque Mitterrand. Deviens jeune vétéran aux pages roses du Tico. Ils possèdent la musique, nous la faisons. Et j'envoie mes lyrics dans l'inframonde. Mais Aragoun des momifies Louis Aragon. C'est du punk noir, proteste, foule. Infrabasse dans la berline, quand la rue transporte les litres. Une grenade dans la playlist, pour de la prose on est l'élite. Musique outrancière, bouffard de papier, prêcheur à capuche. Ce soir j'suis seul en scène, j'rappe ou j'ai papier. J'prêche mes convaincus, j'prêche mes convaincus. Ouais j'mets convaincu, ouais j'mets convaincu. Ça vient pour s'ambiancer. Chez nous les seuls petits qui nous font danser. On le canoncier, on le canoncier. Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus. Ce soir je suis seul en scène, je rappe ou j'ai papier, je prêche mes convaincus. Rose, élite, gros la messe, Edith. Sans mécène ni maison de disque. Gin Records, Made in. Parolier des parloirs. Pas blindé, pas au large. La sortie elle est pas pour là. Tant qu'on aura pas le porte-parole. 7-6.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Fragment hacké d'un futur qui résiste.
Le 8 mars 2014, un hacker tchèque a réussi à décrypter 6 fichiers audio de 6 minutes issus du futur. La censure des gouvernements européens a été immédiate, mais quelques copies ont été sauvegardées sur des serveurs clandestins. Ces documents sonores sont un témoignage exceptionnel de l'insurrection civique des habitants d'une ville privatisée en 2034.
Aujourd'hui dans Ciao Troupeau, diffusion des épisodes 3 et 4 de Fragments hackés d'un futur qui résiste, avec une petite session de rattrapage sur les deux premiers épisodes.
Une jeune fille de 24 ans, du nom de Liv Bechti, aurait été interceptée par un drone hier à 8h16 dans la rue Martin Luther King. Disposant d'un forfait standard, son statut ne lui donnait normalement pas accès à cette rue labellisée premium.
Il y a 4 minutes, Tara Blog.
Elle a coupé par une rue interdite. N'importe qui aurait fait ça à sa place. Elle allait accoucher, vous vouliez qu'elle fasse quoi? Un détour de 3 km?
Il y a 7 minutes.
Les circonstances du drame sont encore inconnues, mais il semblerait qu'un drone ait attaqué Liv Bechti à l'arme sonique, causant une hémorragie interne et un accouchement prématuré. Le bébé est sauf et son père est à son chevet. La police recherche activement l'unique témoin de l'accident. Il s'agirait d'un homme âgé d'une quarantaine d'années qui aurait filmé l'attaque du drone au Bright Phone.
Qu'est-ce que tu fais, Paul ?
Rentrer à la maison.
Papa, où tu vas ?
Je peux pas vous expliquer, là. Je dois absolument disparaître un moment.
Bright Phone de Paul Poulsen.
Séquence vidéo enregistrée aujourd'hui, 8h16, 18 rue Martin Luther King.
Votre profil potentialise un attentat à la ceinture piégée.
J'ai perdu les os !
Laissez-moi passer.
Liv est morte. L'hôpital Gandhi vient de l'annoncer.
Parler d'émeute, quand il s'agit de réactions spontanées, et la plupart individuelles, à un événement tragique qui possède une forte charge affective, c'est versé un peu facilement dans la provocation.
Le mouvement Un architecte a saisi
l'occasion. Le mouvement Un architecte, on le sait, défend depuis toujours, et de façon assez naïve, une liberté inconditionnelle de circulation dans la ville. C'est sympathique, mais qui paye pour la gestion et la maintenance de ces espaces, hein? Qui finance leur sérénité? Ce sont les citoyens privilèges.
Vous n'avez pas peur des émeutes s'il s'avère qu'une bavure a été commise?
Je n'ai pas peur de la démocratie.
Je vais devenir un architecte, Liv. Comme toi. Je voulais que tu le saches. J'entre dans le mouvement demain. Pour continuer ce que tu as fait. Lucie va bien. Elle est en couveuse, mais... elle respire. On va la sauver. Bonne nuit, Liv. Bonne nuit.
Starface Café, 7 mai 2034, 17h12.
La mort de Liv doit servir à faire exploser ce système. C'est ce qu'elle aurait voulu. C'était le sens de sa vie. La liberté de circuler. Tu sais, Kassem, si les gens ne réagissent pas là, ils réagiront jamais. Si on peut tuer une fille enceinte parce qu'elle n'a pas le forfait pour marcher dans la bonne rue, c'est foutu. Ça veut dire que les gens sont morts.
Vous allez occuper quoi ce soir? Je veux en être. Je veux en être, Yasmine. Je veux parler là-bas. Affranchis-moi.
On te donnera le lieu 30 minutes avant l'occupation. Les anarchitectes commencent à construire les cabanes sur place dès qu'ils arrivent. Les militants amènent les palettes, la terre, la récup. Les flics sont là très vite généralement et il faut protéger la zone pour que ça soit habitable avant qu'ils puissent déblayer. Plus on est, plus on a de la chance de squatter dense et que ce soit bien défendu à l'aube. Et que les logements tiennent ensuite plusieurs jours. Ce soir, on va taper très fort. C'est la plus grosse réappropriation qu'on ait jamais tentée.
Dis-moi où.
Écoute-moi bien. Tu mets ces chaussures et... Compris ?
Il va y avoir tous les médias sur place.
Oui. Quand ils vont voir que tu es là, tu vas focaliser toute l'attention. Pour nous, pour Liv, c'est une chance unique de porter nos valeurs au grand public. D'être entendu enfin, en direct, sans distorsion. Sois à la hauteur, Kassem. Je t'en supplie. Ou c'est pas la peine de venir.
Conférence de Liv Bekti, diffusée par un hacker sur le réseau audio du métro.
L'architecture est une architecture légère, précaire.
Place Vinci, 7 mai 2034, 20h26.
Citoyen Journant, vous êtes sur notre fichier des activistes numériques. Merci de bien vouloir faciliter votre mise en examen. Citoyen Journant, vous êtes sur notre fichier.
Nous sommes en direct de la place Vinci, envahie par les squatteurs. Kassem Jaber, le compagnon de Liv Bekti, vient de prendre la parole devant une foule terriblement émue.
Liv n'est pas morte. Pour moi, n'est pas morte parce que vous êtes là. Elle ressuscite quand j'entends vos chants, quand j'entends vos mots. Elle est à nouveau debout à chaque cabane que vous montez, à chaque cabane que vous offrez avec vos mains au sans-toit pour qu'il puisse dormir à l'abri cette nuit, et puis une autre, et puis encore une autre, tant qu'on pourra. Elle est là, dans vos débats, dans vos gueulantes livres. Elle tend sur votre musique, elle lâche rien comme vous. Liv a été assassinée. Mais pas par des drones, Liv a été assassinée par un système. Par des pompes cirées avec des yeux qui se sont dit qu'une ville, ben, ça rapporterait plus si on la découpait en petits morceaux. Par des mecs qui ont décidé que les riches, eux seuls, ont le droit de boire un café à cette table ici, sur cette place. Que les enfants des riches, eux seuls, ont droit à ce square avec ce toboggan tech et ces chats qui griffent pas. Que vous autres, les moins riches, vous n'avez aucun droit de poser vos fesses sur ce banc tech pour jouir de cette fontaine. Aucun droit à traverser cette place. Aucun droit même à la regarder ou à y habiter ou encore moins à y rire. Alors, comme vous tous, ici, j'ai décidé de me lever et de venir dire à ces gens que cet espace, il m'appartient aussi. Et que cette fontaine, j'ai aussi envie d'y boire un peu d'eau. J'admirais le combat de Liv, mais je ne le comprenais pas. Je voyais une gêne, mais pas un problème. Je voyais une injustice, mais pas une honte. Bien, ce soir, je n'en supporte plus. Je supporte plus d'avoir pu accepter ça. Je viens m'asseoir avec vous sur ces bancs en tech pour occuper cette place parce que c'est la seule façon que j'ai de tenir encore debout.
Appartement de Paul et Sophia Poulsen. 7 mai 2034, 20h37.
Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les cabanes construites par les anarchitectes. Un immeuble du quartier est touché. L'intervention de la police pour dégager la place a déclenché une émeute.
Ici, qu'est-ce que tu vas faire? Attendre que tout le monde s'entretue? Tu es le seul témoin, Paul. Tu as la vérité dans ton briphone.
Mon témoignage vaut une montagne de pognon, Sophia. Tu piges ça? Tu mesures? Je vais faire raquer les médias, je vais les saigner.
Tu fais ce que tu veux, Paul. Mais moi, c'est à Kassem Jaber que je le donnerai. C'est sa femme que le drone a tué. C'est la mère de son bébé. C'est à lui que tu dois la vérité.
Va te faire foutre avec ta morale.
On assiste ici à des combats très violents entre de jeunes anars et la brigade robotisée de la gouvernance. C'est clairement l'escalade ici. Les blessés sont évacués en catastrophe par les équipes d'intervention de la ville. Il est encore trop...
Hôtel de ville, 8 mai 2034, 8h15. Piratage anarchitecte.
Connexion sécurisée, haute priorité. Monsieur le gouverneur est en ligne.
Ce qui inquiète nos actionnaires, ce sont les réductions de forfait qu'on va devoir consentir sur le mois qui vient. La place 26 est 100 000 véhicules jour et 60 000 piétons privilèges. Vous mesurez le manque à gagner rien que sur une semaine.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette solidarité qui est en train de naître entre les citoyens standards et les premiums qui n'avaient jusqu'ici jamais levé le petit doigt.
On va passer la parole à Ernst Berchoff. Ernst a été conseiller contestation à la gouvernance de Paris pendant 8 ans, comme vous le savez. Il a accepté de chapeauter notre cellule stratégique dans cette passe difficile.
Bon, je vais être assez direct avec vous. On n'a plus le choix. On va appliquer la stratégie 4D à la lettre. Pour ce type d'insurrection, c'est le plus efficace. Alors vous connaissez tous le 4D, dissuader, démotiver, discréditer et puis désolidariser. Évidemment, tout ça en douceur. Alors dissuader d'abord. On a commencé hier avec une comparution immédiate qu'on a fortement médiatisée. 6 mois ferme pour une nuit dans un parc premium. Ça vous marque les bobos. Et on va continuer en feu roulant. Il s'agit d'éviter la contagion contestataire chez les sympathisants, en montrant à ces fleurs bleues ce qu'il en coûte pénalement de militer. Bon, démotiver. Démotiver, c'est user les activistes, en les obligeant à répondre aux convocations, à payer leurs amendes, à aller chialer au tribunal contre les condamnations de leurs camarades. C'est détourner leur énergie de leur lutte des crasses par des petites attaques juridico-administratives qui peuvent passer par le blocage de leur forfait citoyen, des limitations de bande passante, voire des bracelets électroniques à circulation modulée. On a déjà bagué une trentaine de militants dans ce sens. Et ça les calme. Vous pouvez activer les pare-bruits, s'il vous plaît ?
Très bien, monsieur Berchoff.
Merci. Le troisième D, c'est discréditer. Crucial ici. C'est d'abord discréditer le mouvement en utilisant des casseurs, qu'évidemment nous payons, et qui agissent de façon brutale et furtive, tout en laissant des images exploitables aux médias. Violence sur les biens, violence sur les personnes, la terreur près de chez vous. Bon, la mise en place de ces meutes est en cours. L'idéal, évidemment, c'est toujours d'utiliser des militants qui sont à bout, de les provoquer. Ça coûte rien. Et puis généralement, ils jouent mieux que nos casseurs. Mais là, on doit agir vite. Discréditer, c'est aussi salir les figures de la contestation pour briser l'identification. Ces anarchieurs, jusqu'ici, fonctionnaient sans chef. Alors, nos storytellers, ils n'avaient rien à becquer. Avec l'incident, c'est enfin l'orgie pour eux, avec 2 figures fortes et un bébé sauvé. Alors, il nous faut discréditer une martyre, Liv, enceinte de surcroît. C'est délicat, mais on y travaille. Et puis, il faut discréditer un jeune veuf, Kassem, qui passe malheureusement très bien, un beau visage, très doux, fort coefficient d'empathie dans nos tests. Alors on l'a storytellé ainsi. Kassem, c'est un queutard. Il trompait Liv enceinte, il l'a laissée seule le jour de l'accouchement. Dégueu, mais très efficace. Et elle, c'était une hystérique. On a 2 vidéos de manifestation qui l'attestent. Il faut retravailler la voix, les traits pour la rendre vraiment désagréable, mais rien de complexe. Aujourd'hui, on passe pour les salauds qui ont tué une femme enceinte. Dans une semaine, ce que je vais entendre, c'est « elle l'a un peu cherché quand même ». Aujourd'hui, Kassem, c'est le beau gosse rebelle. Dans une semaine, le buzz, ça doit être. Sous sa belle gueule, ça reste un arabe, donc un menteur. Je schématise, bien sûr.
Ça me semble tout à fait pertinent, Ernst. Tu veux peut-être finir sur le quatrième D, désolidariser.
Dans un mouvement, ce qui est dangereux pour nous, c'est la dynamique de lutte. Cette dynamique, elle tient aux articulations, les genoux, les chevilles, les coudes. Si vous les enlevez, le collectif n'avance plus, il s'écroule. Désolidariser, c'est ça.
Vinci a peur que les squatteurs dégradent l'image de sa place. Ils m'ont aussi demandé de brider nos casseurs.
Je vais parler à de Borélis, un ami. Il faut qu'ils comprennent que c'est nous qui gérons le tempo de la vipère.
La vipère ?
Violence, peur, répression. À une violence mineure des manifestants, on répond par une répression forte, un peu ignoble, qui suscite en réponse une violence plus radicale, qui, elle, va vraiment faire peur à la population. Quand cette peur finit par dominer la sympathie acquise du mouvement, on peut criminaliser avec la bénédiction des citoyens. Et toute nouvelle violence ne fera ensuite que renforcer en spirale la pulsion sécuritaire, qui devient alors une vraie demande sociale faite à la gouvernance.
Bref, nous retrouvons le monopole de la violence légitime, pour être simple. Où en est-on sur le témoin de l'accident ?
On a bien sûr lancé une recherche à partir du bout de visage et de l'extrait de voix que nous avons. L'algorithme nous a sorti 130 profils. On les vérifie un par un par acquis de conscience. Je vous avoue que si le temps manque, on fera preuve d'un peu de créativité. L'essentiel dans notre storytelling de rédemption policière, ce sera de sortir un témoignage, quel qu'il soit, au climax. Vérité révélée, police innocentée.
Fin de connexion sécurisée.
Place Vinci. Appel intercepté. 8 mai 2034, 19h05.
Vous n'êtes pas sur le répondeur de Liv. Vous êtes sur son questionneur. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander ceci. Qu'y a-t-il entre nous ? Si on se réveille le matin et que tout a doublé de proportions, comment peut-on s'en rendre compte ? Si tu pouvais te réincarner dans un bruit, ce serait quoi ?
Swing low, sweet chariot, for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me.
Rendez-vous dans 15 jours dans Ciao Troupeau pour les deux derniers épisodes de Fragments hackés d'un futur qui résiste.
Ciao Troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique.
Eh bien voilà.
Eh oui, comme tout.
Ah bah là, attends, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bah, comme toutes les bonnes choses
c'est
ont
ça.
Une fin, et bien, tiens au troupeau aussi.
Ouais, ouais,
à ce qui paraît. C'est ce qu'on nous a dit, il fallait rendre l'antenne, alors du coup, bah, on coopère.
On coopère,
ah,
bon.
Bah, bien sûr.
Un grand merci à Aurélie et Vincent.
Merci Aurélie et Vincent pour leur présentation. Vous avez pu entendre un appel de Omar Slaouti pour la marche de la dignité à Paris, c'est samedi. Il y a des départs qui se font depuis Toulouse, il y a des départs qui se font peut-être aussi depuis l'Aveyron, si jamais, essayez de trouver tout ça.
Dans le bus, ouais.
Voilà, exactement. Et puis, fragment hacké d'un futur qui résiste. Voilà,
à
c'était
suivre.
Épisode 3 et 4. À suivre les 5 et 6 la semaine pas prochaine, dans 15
jours. Dans 15 jours, oui, tout à fait.
Puisque c'est une émission bimensuelle.
Et en rediffusion une semaine sur deux, du coup.
Exactement. Donc, si vous voulez nous écouter, sera en rediff la semaine prochaine à la même heure sur la même antenne. Et puis, le prochain direct, ce sera dans 15 jours.
Et puis, toutes les infos sur le site web de la radio, www.radiosaintafrique.com.
Exactement. Et n'oubliez pas qu'on a aussi le blog Arte machin truc, là, audio blog Arte Radio, Ciao Troupeau. Vous trouverez des trucs. Et même en avance, un petit peu, on pose des trucs en avance,
histoire cool.
D'allécher l'auditeur, évidemment. Voilà. Et
bonne soirée.
Et puis dans 15 jours.
À très bientôt. Ouais.
Salut,
ciao.
Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Ciao, ciao, le troupeau, je me barre. Je m'en vais broutiller autre part. Ciao.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs.
Ciao troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique.
Ciao troupeau.
Now open your eyes and switch off this recording and prepare yourself for the next section on program 2.